Mondial Sport sur RFI. Christophe Diremzian.
Bonsoir à tous, Mondial Sport de retour pour la seconde période du week-end qui démarre avec un champion en Liga, c'est fait. Le FC Barcelone profite de sa victoire dans le derby catalan avec l'Espagnol 4-2 pour décrocher le 27e titre en championnat de son histoire. Le Real Madrid, lui, est désormais entièrement focalisé sur sa demi-finale retour de Ligue des Champions. Point complet dans un instant avec Pierre Chaperon, l'adversaire du Real Manchester City. Lui touche au but en Première Ligue, sa victoire à Everton combinée à la défaite d'Arsenal chez lui ouvre un véritable boulevard aux Citizens. Gros plan sur la saison compliquée de Lys Sassandra, ce club ivoirien devenu populaire pour avoir soutenu Didier Drogba lors de la campagne pour la présidence de la fédération. À l'heure de la clôture des championnats du monde de judo à Doha, que peut-on retenir de la participation des concurrents et concurrentes africaines ? Eh bien que c'est toujours aussi compliqué de progresser, faute de véritables moyens. Enfin, la NBA, c'est parfois la loterie. Surtout, dans 48 heures, les équipes les moins performantes de la saison doivent passer par l'étape du hasard pour savoir qui aura le privilège de recruter le phénomène français, Victor Wembanyama. Comment cette loterie fonctionne-t-elle ? Eh bien, on vous expliquera tout. On n'en doutait pas vraiment, ça n'était qu'une question de temps. Ben voilà, c'est fait depuis maintenant une grosse demi-heure. La Liga tient son champion 2022-2023, c'est le FC Barcelone. Bonsoir Pierre Chaperon.
Bona tarda, comme on dit en Catalogne. Bonsoir Christophe.
Cette circonstance, 27e titre donc pour le Barça qui s'impose 4-2 sur la pelouse de son voisin l'Espagnol.
Ouais, et 4 ans après, le Barça règne de nouveau, comme le dit Marca. Une fête gâchée un petit peu par les supporters de l'Espagnol, furieux que les Blaugrana fêtent le titre au milieu du terrain. Certains supporters péricos sont descendus. Résultat, les nouveaux champions d'Espagne ont vite quitté les lieux. S'en est suivi des heurts entre la police et les supporters. Un peu plus joyeux, des milliers de supporters Blaugrana qui sont déjà réunis dans le centre-ville, sur la Rambla, pour fêter ce titre. Les joueurs vont aller fêter ça dans un restaurant UP de Barcelone cette nuit. Et puis demain, défiler dans la ville avec l'équipe féminine, championne d'Espagne elle aussi. Et ça sera aux alentours de 18h. Côté match, doublé de Lewandowski à la 11e minute sur un centre à terre de Baldé et à la 40e minute sur un centre mi-hauteur de Rafinha. 21 buts pour le Polonais, plus que jamais Pichichi de la Liga. Baldé avait inscrit le deuxième but, son premier avec le Barça en Liga. Jules Koundé, de la tête au point de pénalty, a mis le quatrième en début de deuxième mi-temps. Puado et Rossellou ont réduit la marque pour les Pericos en fin de match. Un Espagnol 19e ce soir et qui va lutter pour sa survie, mais qui ce soir n'a rien pu faire face à l'envie du Barça.
Alors, on va regarder un petit peu ce titre d'un petit peu plus près, Pierre. Le Barça qui a véritablement impressionné cette saison avec sa défense de fer.
Oui, un chiffre, 13, c'est le nombre de buts encaissés par le Barça cette saison. Alors bien entendu, dans ce record, on pourrait citer le gardien Ter Stegen, revenu à son meilleur niveau. Mais on retiendra surtout ici en Espagne les performances de l'Uruguayen Ronald Araujo, côté droit ou en défense centrale, 1m88, défenseur rugueux, mais seulement un carton rouge cette saison. Il est devenu incontournable. Résultat, bah, quand il se blesse, c'est tout Barcelone qui a des sueurs froides.
Alors c'est aussi le premier titre de champion d'Espagne pour Xavi Hernandez.
Oui, on parlait de la défense, ça a été un sujet de critique, de moquerie en Espagne, parce que Xavi, à son arrivée, on pensait retrouver eh bien, un jeu flamboyant, et au final, on a eu un Barça très réaliste, très résultatiste, comme on dit en espagnol. Xavi qui a pu compter également sur un recrutement XXL cette saison, plus de 150 millions de dépenses, grâce au fameux levier débloqué par le président du Barça l'été dernier. Lewandowski, meilleur buteur, je le disais, en est un bon exemple. Autre atout du Barça, la jeunesse, comme souvent, Pedri, Gavi, Baldé, pour ne citer qu'eux. Et puis, c'est le premier titre depuis le départ de Léo Messi, ça c'est à noter.
Alors justement, on parlait de Messi, l'été sera agité pour le Barça.
Oui, puisque premier fait d'importance, le directeur sportif Matteo Alemanni, lui, s'en va. Il rejoint Aston Villa le 1er juillet. On parle d'un ancien du Barça pour le remplacer, Deco, lui qui était jusqu'ici agent de joueur. Le Barça qui va devoir chercher 200 millions d'euros pour rentrer dans les clous du fair play financier espagnol, qui va devoir faire valider par la Liga les contrats de Gavi et Araujo, entre autres. Franck Kessié, Ansu Fati sont annoncés annoncé sur le départ. Sergio Busquets, 32 titres avec le Barça, a lui confirmé qu'il s'en allait. Jordi Alba pourrait le suivre. Ça va libérer de la masse salariale. Le Barça va fermer sa chaîne de télé en clair et le Barça va aussi devoir composer avec le déménagement au stade olympique sur la colline de Montjuïc, puisque le Camp Nou va subir un gros lifting, 50 millions de recettes en moins.
Bon, honnêtement, Pierre, ça paraît quand même très très difficile de revoir Messi au Barça la saison prochaine.
Ouais. Pas impossible, mais difficile. Il y a une réalité économique du club dont on vient de parler. Il y a une règle en Liga, c'est qu'on ne peut pas sous-payer les joueurs. Ce qu'on m'a dit ici, c'est que le club ne peut pas donner moins de 25 millions d'euros bruts à l'année. C'est un calcul savant fait par un cabinet extérieur. Maintenant, à Barcelone, ce qui se dit, c'est que le départ de Sergio Busquets, c'est peut-être une piste, parce que les deux joueurs sont très proches. Est-ce qu'ils ont lié leur avenir tous les deux? En tout cas, je vous le dis ce soir, la tendance, c'est que Busquets avec Jordi Alba pourrait rejoindre en Arabie Saoudite Lionel Messi.
Eh bien, affaire à suivre, évidemment, dans les prochaines semaines. Voilà pour le Barça, champion d'Espagne 2023. Un petit mot quand même sur le match du Real, Pierre, hier. Victoire face à un voisin aussi, Getafe, 1-0. Enfin, les esprits étaient quand même plus tourné vers l'Angleterre et la demi-finale de retour de la Ligue des Champions mercredi contre City. Hein.
Oui, c'était service minimum pour le Real hier. But de Marco Asensio à la 70e minute d'une frappe avant l'entrée de la surface face à un Getafe 18e de la Liga. Benzema à la barre, Rodrigo Carvajal était au repos. Vinicius, Modric, Kroos, Rudiger qui sera titulaire mercredi, c'est ce qu'a annoncé Ancelotti hier. Eux, et ben, ils étaient sur le banc. Résultat, pour la première fois depuis le 3 janvier, on a vu Eden Hazard titulaire. À noter le retour de Ferland Mendy, une première depuis fin janvier. Juste une petite alerte qui nous a fait un petit peu fait sortir de notre léthargie hier soir. La sortie sur blessure d'Eduardo Camavinga sur un tacle à la fin du match. On avait craint l'entorse, mais au final, le Français sera bien du voyage à Manchester.
Merci beaucoup Pierre Chaperon. Donc le Barça ce soir champion d'Espagne pour la 27e fois de son histoire. On parlait de Manchester City, ma transition toute trouvée pour parler de la Première Ligue et de la 36e journée presque achevée, mais surtout désormais dénuée de pratiquement tout suspense, puisque Arsenal a ouvert justement un boulevard à Manchester City pour le titre en coulant à domicile sous les yeux de notre correspondant Philippe Auclair. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous et à toutes.
On peut dire que vous avez été le témoin d'un vrai naufrage tout à l'heure à l'Emirates Stadium, des Gunners coupables de sabordage véritablement face à Brighton, qui l'emporte nettement, hein, 3-0.
Oui, une équipe d'Arsenal qui, je dirais pas qu'elle a paru démotivée, c'était pas ça le mot. Elle a paru manquer de rythme. Elle a très rapidement perdu Gabriel Martinelli, bon, qui a été victime d'un tacle assez sévère, mais qui a dû sortir. Et au passage, on se pose la question de savoir s'il rejouera cette saison. Des absents qui ont pesé, pas comme Zinchenko, comme Saliba, mais tout cela, c'est chercher des excuses à peut-être de manière inutile, dans la mesure où face à eux, il y avait une équipe de Brighton qui, par contre, est totalement, totalement motivée, qui est encore en course mathématiquement, ce qui paraît incroyable, pour une place en Ligue des Champions, et oui, et qui a en fait montré sur tout le terrain toutes les qualités que l'on attendait d'Arsenal et qu'Arsenal n'a pas montré, à savoir, comme je le disais, imprécision, manque de tranchant au milieu de terrain en particulier, de grosses erreurs, même de grossières erreurs défensives, et Brighton en a profité. Ce qui signifie, ben évidemment, que pour ce qui est de la course au titre, il n'y a plus véritablement de course au titre. Je pense que Manchester City peut baisser son rythme et en fait traverser la ligne d'arrivée au pas. Ils ont encore 3 matchs à disputer, alors qu'ils sont certes des matchs qui ne sont pas sans danger, à domicile contre Chelsea, même si le Chelsea de Frank Lampard n'est pas celui... en tout cas, on peut l'espérer qu'il sera celui de Mauricio Pochettino, on en parlera dans quelques minutes. Brentford à l'extérieur, Brighton à l'extérieur, c'est pas simple non plus, mais quand on voit ce qu'a fait Manchester City à Everton, qui était pourtant très remonté, et quand on a vu ce qu'Arsenal n'a pas fait face à Brighton, on se dit que là, en effet, le boulevard est ouvert, et c'est un boulevard sur lequel Manchester City devrait défiler victorieusement dans très peu de temps, puisqu'il leur suffit désormais d'une seule victoire pour s'assurer d'un 5e titre en 6 ans.
Alors, pour se rapprocher du titre, City n'en demandait pas tant à Arsenal, hein, d'autant que les joueurs de Pep Guardiola, eux, ont maintenu le rythme d'un leader vraiment irrésistible depuis des semaines. C'est Everton, qui de son côté est de plus en plus entraîné vers la 2e division, qui en a fait les frais, en s'inclinant, lui aussi, sur sa pelouse, 3-0.
Oui, et même si Everton a franchement fait tout ce qu'il pouvait faire, même si Everton, pendant une demi-heure, on va dire, a fait illusion, s'est créé des demi-occasions, a été extrêmement agressif, ça n'a pas suffi. Et quand c'est pas Haaland, même s'il a marqué à nouveau, c'est le cas de Gundogan qui en ce moment est sur un nuage, le milieu de terrain allemand de Manchester City, de nouveau auteur d'un doublé comme il l'avait été face à Leeds United, le premier but en particulier un chef-d'œuvre absolu au niveau technique, et dès que Manchester City applique un peu plus la pression, dès qu'ils ont ouvert la marque, bon, le match était plié, un match qui aura rassuré Pep Guardiola avant le retour contre le Real Madrid. Il a pu faire tourner un petit peu, peut-être moins que ce à quoi on s'attendait, son équipe, en ce sens qu'on n'a pas vu Kevin De Bruyne, ou en tout cas, on l'a vu sur le banc, on a vu Bernardo Silva être ménagé également, mais malgré tout, cette équipe de Manchester City, imposante, impressionnante, et qui a, une fois de plus, montré ses qualités de constance face à un adversaire qui était extrêmement remonté, mais qui n'est pas parvenu à faire la différence, qui a buté sur une défense de Manchester City qu'on a rarement vu aussi solide que celle-là. Et donc, en effet, voilà, 3 points, 3 buts, 2 de plus pour Ilkay Gundogan, 1 de plus pour Erling Haaland, ce qui nous mène à 52, si je ne m'abuse, pour la saison, histoire de fêter sa toute nouvelle distinction de footballeur de l'année qui lui a été décernée vendredi et qu'il recevra le 25 mai à Londres. Donc, tout va bien pour les Citizens à l'approche du match retour, de ce match que tout le monde attend avec tellement d'impatience contre le Real Madrid pour une place en finale de la Ligue des Champions.
Pour le titre en première ligue, donc c'est quasiment réglé, hein. Pour les accès à la Ligue des Champions, la bataille continue, sauf maintenant pour Tottenham, hein, sorti du jeu après sa défaite à Aston Villa 2-1.
Aston Villa qui confirme ce qu'on a vu, le redressement sous Unai Emery. Aston Villa qui a encore une toute petite chance d'accrocher le wagon européen, qui sont actuellement 8e, et Tottenham, ça y est, le break est fait, puisque Manchester United, qui a joué 35 matchs, a maintenant 66 points, et que Tottenham, qui en a joué un de plus, 36 à 57 points, vous faites les calculs, c'est pas compliqué. Tottenham ne sera pas en Ligue des Champions la saison prochaine. C'est un camouflet quand on songe à ce qu'ils avaient accompli la saison précédente, quand on songe aux espoirs qu'on fondait en eux lorsqu'Antonio Conte était. Les choses se passaient plutôt pas trop mal pour lui, et puis bon. Le club, c'est la déliquescence totale. On sait qu'on est passé d'Antonio Conte à un intérimaire qui n'a pas fait son intérim. Puis on est passé maintenant à Ryan Mason, l'ancien de Tottenham, qui lui fait l'intérim en attendant l'arrivée d'un manager dont, on ignore encore l'identité, mais qui ne sera ni Julian Nagelsmann, ni Mauricio Pochettino.
Et par ailleurs, on rappelle que Southampton est le premier club officiellement relégué après sa défaite face à Fulham 2-0. Merci beaucoup, Philippe Auclair, en ligne de Londres. Le point sur la 35e journée de Ligue 1, une heure après la victoire en clôture de Marseille à domicile sur Angers 3-1. L'OM revient à 2 points du deuxième, Lens désormais assuré de finir sur le podium, conséquence du 0-0. Entre Monaco et Lille. Les Angevins, eux, sont déjà relégués au même titre que la C Ajaccio, et désormais 3 qui prend officiellement à son tour l'ascenseur pour la Ligue 2 après sa lourde défaite à Rennes 4-0. Carl Tocco et Cambi réalisé un doublé. Parmi les autres résultats, Lyon chute à Clermont 2-1. Et puis c'est tout frais, résultat en Afrique qui intéressera évidemment les Sénégalais. Le Sénégal qualifié pour la finale de la CAN des moins de 17 ans en Algérie. Les Lyonceaux ont écarté le Burkina Faso 5 tir au but à 4-0-0 à l'issue du temps réglementaire. Ils affronteront le Maroc qui, de son côté, a battu le Mali également au tir au but. 6 tirs au but à 5. Cette finale aura lieu vendredi. C'était il y a presque un an, des milliers d'Ivoiriens devenaient fans du Lys Sandra, un petit club de Ligue 1, en raison du vote du club pour Didier Drogba, la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football. Une popularité éclair et de courte durée, et surtout un soutien qui n'a pas vraiment porté cette équipe de la ville côtière, car depuis, l'effervescence est bien retombée, mais le club veut construire sur la durée. Reportage Yuen Gourlet.
Dans les tribunes du stade Robert Champroux à Abidjan ce dimanche, les quelques supporters de l'équipe du stade d'Abidjan donnent de la voix. Juste à côté d'eux, ceux du Lys Sassandra font peine à voir. Ni musique, ni encouragement, ni réaction aux occasions de leur équipe qui mène pourtant 1-0 à la mi-temps. Et pour cause, la marée bleue, comme ils se surnomment, vient de décider de ne pas encourager l'équipe en raison des mauvais résultats du Lys, 10e du général, comme l'explique Constant Gaudiot, président des supporters.
Bon, aujourd'hui, c'est silence radio. On est venu que pour regarder le match sans apporter notre soutien en quelque sorte au club. les joueurs et les dirigeants, c'est un mot qu'on veut les faire passer pour dire que nous, les supporters, nous ne sommes pas contents. Mais on a toujours le cœur là vis-à-vis de ce club-là. Ce club-là, on l'a épousé, pas parce que ce club-là même d'habitude avait de bons résultats. On l'a épousé par rapport au changement que ce club-là prenait.
Une ambiance qui tranche totalement avec celle de l'année passée à la même période. Le lycée Sandra connaissait alors un engouement spectaculaire juste après le vote de Mamadou Dia, le président fondateur du club, pour Didier Drogba, qui briguait la présidence de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. Mamadou Dia avait d'ailleurs été le seul président de la Ligue 1 à voter pour l'ancien attaquant de Chelsea, qui avait finalement perdu dès le premier tour de l'élection. De quelques milliers de suiveurs sur les réseaux sociaux, la page Facebook du lycée avait alors atteint les 300 000 followers. Pour remercier le président, l'ancienne star des éléphants était venue assister à un match d'Ulis dans une ambiance inédite, ce qui avait évidemment aidé le club, comme le raconte le président d'Ulis.
Quand même quelques financements des sponsors et on continue d'en recevoir d'ailleurs, malgré les résultats. Parce que la vie d'un club, ce n'est pas sur une demi-saison ou une saison. La vie d'un club, c'est sur des années. Et nous sommes un club en construction. Les gens nous découvrent, mais ils ne savent pas ce que nous sommes. Nous sommes un club qui se construit doucement avec les moyens de bord. Vous savez, dans la vie d'un club, on n'appuie pas un bouton et puis les résultats arrivent. Et ce n'est pas parce que du coup nous avons beaucoup de supporters qu'on va être un grand club comme la SEC, ce n'est pas possible. Il faut du travail pour le faire. Maintenant, nous avons un capital sympathie, moi c'est comme ça que j'appelle, qui est énorme. Et ce n'est pas les personnes qui viennent au stade, hein, les personnes de la ville. Et ce capital sympathie, il est là. Je veux dire, demain si on reprend, nous avons des très bons résultats. On va avoir encore plus de supporters qui vont venir au stade.
Grâce notamment à cette soudaine effervescence, le Lys, qui n'existe que depuis une dizaine d'années, avait fini 6e du championnat, un an après sa montée dans l'élite. Mais Michel Bindel, entraîneur du club, le concède, les supporters sont devenus très exigeants avec le Lys.
C'est dur de gérer la pression, vu que le championnat ivoirien ne draine pas assez de monde à part la SEC. Donc quand il y a des entraîneurs ou bien des joueurs qui sont confrontés à cette nouvelle pression-là, c'est assez complexe. Bon, après, les supporters aussi, s'ils veulent aider le club, il faut qu'ils soient patients.
Cet après-midi, le lycée Sandra a finalement perdu 2-1, mais les supporters ont tout de même donné de la voix dans le maquis près du stade. Ils le crient haut et fort, ils supporteront le club jusqu'au bout. Youen Gourlet, Abidjan, RFI.
Les championnats du monde de judo se sont refermés ce dimanche à Doha sur le nouveau sacre du Japon dans l'épreuve par équipe mixte. Une victoire serrée en finale 4-3 face à l'équipe de France. Résultat historique pour le Maroc qui se classe 5e. Voilà qui nous amène à dresser le bilan de l'Afrique durant cette semaine de compétition. Et pour cela, on rejoint notre envoyé spécial à Doha, Eric Mamrut. Bonsoir Eric.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Alors premier constat, le continent ne ramène aucune médaille du Qatar.
Oui, et ce n'est pas une surprise, hein, tant le fossé demeure immense entre l'Afrique et le reste du monde. Sur les 73 combattants du continent engagés, seuls deux ont pu se hisser en quart de finale, se classant 7e à l'arrivée, ceci sur l'ensemble des 14 catégories du judo. Le Marocain Younes Sadiki en moins de 60 et l'Algérien Redouane Driss en moins de 73. Pour le reste, et les 20 autres nations représentées, que des défaites au premier tour ou presque, les victoires se comptant sur les doigts d'une main. Le Maghreb donc qui surnage dans ce marasme qui se répète d'année en année. Tentative d'explication avec Christian Borom-Boro. Il est l'entraîneur national de l'équipe du Gabon et notamment du jeune Fernand Kiro, numéro 2 mondial chez les juniors et qui s'entraîne en France depuis 6 mois. Il a perdu au premier tour. Écoutez Christian Borom-Boro.
Les Maghrébins font souvent les meilleures performances durant les championnats du monde. Eux, comme ils sont un peu plus professionnels chez eux, ils font beaucoup de stages en Europe. Pour faire un athlète de haut niveau, il faut des stages de haut niveau, compétition. Il faut un volume de travail, c'est-à-dire stage de 10 jours avec les meilleurs. Tu le fais, tu reviens au club, tu travailles la tactique. Ensuite, compétition, tu reviens, stage compétition. Tu dois faire des tournées comme ça. Par exemple, quand tu prépares un championnat du monde, et c'est pas ce qu'on a fait là. En fait, on veut bien rêver que Kero fasse, mais les conditions n'étaient pas réunies. On ne prépare pas un championnat du monde dans le club. Il faut des compétitions de haut niveau. Il fallait faire plusieurs grands prix et accompagner des stages. Ça, il n'a pas pu le faire et ce n'est pas dans les conditions de sa bourse. Donc, c'est beaucoup de moyens.
S'entraîner dans un club français qui possède, on le sait, de très bonnes infrastructures et de bons entraîneurs ne suffit donc pas. Il faut en plus multiplier les stages à l'étranger, les grandes compétitions. C'est ce que fait le judoka camerounais qui vit en France, son pays de naissance, écoutez-le.
J'essaie de sortir moi-même sur des compètes. Il faut se confronter au niveau européen aussi. Le niveau africain est élevé, mais le niveau européen, on ne va pas se mentir, est quand même plus élevé. C'est aussi comme ça qu'on va progresser en affrontant des mecs comme Medieff, celui que je viens de prendre, 10e mondial, et en affronter dans toutes les compétitions possibles pour prendre de l'expérience, avoir des choses à travailler avec mon club et les stages aussi. Avec les stages, on voit beaucoup d'autres judo. Voilà, de toute façon, pour être à ce niveau-là, il faut pratiquer, faut faire tomber. Il faut bouffer du judo et j'engage moi-même les frais s'il faut.
Kevin Budin qui s'est incliné au premier tour pour ses tout premiers championnats du monde.
Alors c'est compliqué, on l'a compris, pour les judokas africains basés en France, mais encore plus pour ceux évoluant sur le continent.
Oui, la différence entre les expatriés et les binationaux basés en Europe est énorme sur beaucoup de plans. C'est ce que nous explique la combattante sénégalaise Khadija Sonko.
C'est plus facile pour eux parce que déjà, la plupart des pays, ils n'ont pas besoin de visa. Nous, pour avoir le visa, c'est tout un problème. En plus, eux, ils s'entraînent vraiment régulièrement. Nous, au Sénégal, on n'a pas que ça à faire. Il y a la réalité, quoi. Il faut travailler, il faut étudier, parce que ça ne paye pas vraiment. On n'est pas nombreux aussi à l'entraînement. On peut être maximum 10. On n'est pas nombreux, une personne par catégorie. On n'a pas forcément de sparring partner. Du coup, c'est un peu difficile. En Afrique, on se connaît tous. Chacun sait ce que l'autre fait. Du coup, ce n'est pas intéressant. À mon avis, il faudrait des stages internationaux, croiser vraiment les meilleurs. Pour faire des stages, pour nous, c'est un peu plus compliqué. Ah bah, les billets, c'est cher, hein.
Les locaux qui bénéficient tout de même des conseils que leur donnent les binationaux basés en Europe, de quoi les faire un petit peu progresser, mais pas de quoi leur donner la confiance nécessaire pour espérer faire tomber les meilleurs mondiaux, car quand on est un petit poussé du continent, les complexes ne sont jamais très loin. Écoutez la Camerounaise Audrey Jeannette et toi Biok.
Mentalement d'abord, nous sommes, je dirais, je ne sais pas si je dois dire touchés, mais mentalement, seulement le fait d'entendre que nous passons avec X pays, ça nous frustre un peu. Sauf que ça ne devrait pas. On a le mental, mais à un moment, on doute un peu. Les autres peuvent avoir confiance en nous, mais si nous-mêmes au départ, nous n'avons pas confiance en nous, le résultat attendu ne sera pas ça. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout sur le plan mental.
Et il y avait 5 combattants camerounais ici à Doha, à l'arrivée, aucune victoire.
En fait, rares sont les judokas qui bénéficient de conditions optimales pour bien progresser.
Ah, il y en a très très peu, c'est le cas de Banik Diaye. Le poids lourd sénégalais s'entraîne régulièrement dans la Mecque du judo français à l'INSEP. C'est Teddy Riner qui l'a d'abord fait venir. Banik Diaye est maintenant un pensionnaire à temps plein depuis 8 mois grâce à une bourse olympique octroyée par l'État sénégalais. Il en ressent déjà les effets. Banik Diaye.
Mentalement, déjà à l'approche de la compétition, physiquement, techniquement, ça a beaucoup évolué. Je sens que je progresse beaucoup mieux en ce moment. L'INSEP, c'est au-dessus de tout. Tout est réuni pour performer. Franchement, tout est réuni. Au départ, je m'entraînais à l'INSEP parce que Teddy l'hésitait. Je l'aidais un peu à s'entraîner parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gabarit là-bas. Mais du coup, moi, je profitais de son statut et du grand judoka qu'il est. C'est pendant qu'en m'entraînant avec lui que j'ai pu être champion d'Afrique plusieurs fois. Avant, j'étais 3e, voire 5e. Mais là, quand je me suis entraîné avec lui, c'est vraiment là où j'ai pris vraiment du niveau et vraiment, il m'a permis de progresser.
Banik Diaye est battu au 2e tour de ses mondiaux face au Cubain Andy Granda, le champion du monde sortant. Le Sénégalais qui espère pouvoir être prêt l'an prochain pour décrocher une médaille lors des JO de Paris 2024. Ce ne sera pas le cas de la plupart des autres Africains qui y prendront part, à l'exception donc peut-être de quelques combattants maghrébins.
Merci beaucoup Eric. On vous lâche vite parce que sinon vous allez rester enfermé dans le dojo. On est en train de tout démonter, on l'a tout entendu. Et bon retour à Paris. La saison de NBA n'est pas encore terminée, que les équipes écartées des playoffs ont déjà commencé à réfléchir au recrutement capable de les faire rebondir à l'automne prochain. Un moyen incontournable pour cela, évidemment, comme tous les ans, la draft, la traditionnelle bourse aux joueurs, aura lieu le 22 juin. Mais comme dans ce système, le principe du premier arrivé, premier servi est très important, la Ligue nord-américaine organise dans la nuit de mardi à mercredi en France une loterie pour déterminer quelles franchises, parmi les moins performantes, auront les premiers choix. Si on en parle cette année, c'est parce que le joueur choisi en premier dans 5 semaines sera, en principe, pour la première fois de l'histoire, français. Victor Wembanyama, le jeune pivot des Metropolitans de Boulogne-Billancourt. Son talent et ses 2m21 font rêver toutes les franchises outre-Atlantique, mais certaines davantage que d'autres. On va vous expliquer pourquoi avec notre correspondant à Los Angeles, Loïc Piala. Bonsoir.
Bonsoir Christophe.
Le principe de cette loterie déjà, c'est que tout le monde n'est donc pas sur un même pied d'égalité.
Oui, parce que pendant longtemps, la dernière équipe de la saison régulière avait le plus de chances de récupérer le premier choix. Mais trop d'équipes ont fait exprès de perdre en faussant le championnat. Alors la NBA a changé ses règles depuis 2019 et aujourd'hui, trois équipes ont le même pourcentage de chance, 14%. Il y a donc cette loterie avec 14 balles de ping-pong numérotées, un peu comme au loto. Une première balle sort, une deuxième après 20 secondes, une troisième après 10 secondes et une quatrième après 10 secondes supplémentaires. Ces quatre balles forment une combinaison et le premier choix de draft reviendra à la franchise qui a la combinaison correspondante.
C'est-à-dire ?
Eh bien, avec 14 balles dans la loterie, il y a 1001 combinaisons possibles. Chaque franchise s'est vu accorder un certain nombre de combinaisons. Houston, Détroit et San Antonio, les plus mal classés cette saison, ont reçu 140 combinaisons chacune. Charlotte, 125, Portland, 105, etc. jusqu'à la 14e équipe. Cela veut dire que Houston, Détroit et San Antonio ont chacun 14% de chance d'avoir la bonne combinaison. Et donc, le premier choix de draft pour la Nouvelle-Orléans, la 14e équipe, c'est moins d'1%.
Et on est sûr que Victor Wembanyama sera numéro 1 ?
Lui, il en est convaincu, il le dit depuis longtemps, il a tweeté la semaine dernière qu'il allait connaître sa future destination dans quelques jours, et effectivement, ça ne fait absolument aucun doute, hein. Les franchises qui ont sacrifié leur saison ne l'ont pas fait pour Scoot Anderson, probable numéro 2, un meneur au gros potentiel, c'est vrai, mais rien de comparable à Wembanyama, décrit par tous comme un talent générationnel, hein. D'ailleurs, la NBA organise cette semaine un draft combine, une sorte d'entretien d'embauche pour 78 candidats à la draft, ils vont rencontrer les franchises, jouer devant leurs représentants, et Wembanyama ne sera pas là, il veut finir la saison avec les Metropolitans, et soyons clairs, personne en NBA n'a besoin de le voir jouer de près pour s'assurer de son niveau.
Justement, aux États-Unis aussi, Loïc, on le voit vraiment comme un phénomène, c'est pas du tout une vision auto-centrée des Français.
Ah non, pas du tout. L'Amérique l'attend avec une très grande impatience. Il n'y a que LeBron James qui a suscité vraiment la même excitation avant une draft ces 30 dernières années. Je vous rappelle que l'application de la NBA a diffusé les matchs des Metropolitans pour que le public américain le regarde jouer. C'est totalement impensable jusqu'ici. La Ligue a aussi organisé, donc payé en début de saison, deux matchs amicaux entre les Metropolitans à Las Vegas contre une équipe de G-League, sa ligue de développement. Et puis quatre MVP ont chanté ses louanges. On commence par LeBron James. Écoutez.
Ces dernières années, plein de jeunes joueurs ont été décrits comme des licornes, des talents uniques. Mais lui, c'est un extraterrestre. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi grand, avec cette fluidité, cette grâce sur le parquet.
Écoutez, Steph Curry maintenant, le joueur des Golden State Warriors.
On dirait la création d'un jeu vidéo pour tous les meneurs qui rêvent de faire 2m10. C'est un cheat code.
Et voilà, Kevin Durant, c'est l'une des grandes inspirations du français.
Ce type de talent, ça vous donne le sourire quand vous jouez au basket. Un gars de 2m20 qui peut tout faire sur le parquet, la ligue va souffrir quand il va arriver.
Loïc, quelle franchise serait idéale pour lui ?
N'importe laquelle, hein, c'est ce que Victor Wembanyama a dit en tout cas, et c'est vrai qu'en théorie, il suffira de faire de son équipe une candidate au titre, hein, peut-être pas immédiatement, mais c'est le sens de l'histoire. Alors Houston et Détroit ont beaucoup de jeunes joueurs, sans vraie star pour jouer à ses côtés, mais les Pistons ont un Français dans l'effectif, Killian Hayes, ça peut aider. San Antonio, l'ancienne équipe de Tony Parker, est toujours coaché par Greg Popovich, un des premiers entraîneurs de la Ligue à avoir fait confiance à des joueurs étrangers. Charlotte et Portland seraient sans doute plus intéressants à court terme. Wembanyama pourrait former un sacré duo avec LaMelo Ball, le meneur spectaculaire des Hornets, ou encore avec Damien Lillard, bien sûr, la superstar des Blazers. Évidemment, ce serait très excitant de voir le Français de 19 ans rejoindre un autre prodige européen, Luka Doncic, mais les Dallas Mavericks n'ont que 3% de chance de gagner la loterie.
Merci beaucoup, Loïc Pella, en direct de Los Angeles. On ajoute que lors de cette draft, il y aura d'autres joueurs notables concernés, le jeune Français Ryan Rupert, son compatriote Sidi Sissoko, qui est le fils d'un international sénégalais, le Malien Adama Sanogo, ou encore le Congolais RDC Oscar Tshiebwe, qui jouait cette saison à Kentucky, l'une des meilleures équipes universitaires américaine. Et puis on n'oublie pas que la saison continue de NBA avec la première finale de conférence connue à l'ouest. Les Lakers qui ont éliminé en demi-finale et les tenants du titre Golden State vont commencer à affronter les Nuggets de Denver dans la nuit de mardi à mercredi. À l'est, le duel n'est pas encore totalement formé. Il y aura, c'est sûr, le Heat de Miami. Ce sera soit contre Boston, soit contre Philadelphie. Les deux équipes s'affrontent en ce moment pour un match décisif. Voilà, Mondial Sport est terminé pour ce soir. Merci à Jean-Philippe Thury et Fabrice Violet pour la réalisation. On se retrouve le week-end prochain. Bonne soirée.